Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 novembre et on va parler aujourd'hui, je ne suis pas toute seule en studio, il y a toute l'équipe pour parler du Festival des 37 à Cran qui commence le 3 décembre. Évidemment, ce sera notre gros dossier du jour. On va aussi parler des agriculteurs qui tirent la sonnette d'alarme. Ils ne s'en sortent plus entre la hausse du prix des matières premières et aussi les coûts en tout cas de leur vente qui ne sont pas au prix espéré, il nous en parle. Et on va aussi continuer notre feuilleton avec le Lab Lab, le premier Fab Lab spécialisé pour les personnes en situation de handicap à Laval. Et on va voir là concrètement comment se passe un projet de A à Z. Ça, ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, on fait un petit point sur l'actualité. Un effort très significatif vers nos hôpitaux. Christelle Morançais a salué les annonces du ministre de la Santé hier avec le plan Ségur dans les Pays de la Loire qui prévoit 1,2 milliard d'euros d'investissement. Le maire de Laval, Florian Bercot, lui évoque une avancée clairement insuffisante par rapport aux besoins. Un investissement de 39 millions d'euros a été prévu pour la reconstruction des urgences et de la réanimation de l'hôpital de Laval, alors que la restructuration lourde de l'hôpital est évaluée à 144 millions d'euros. Il faut sortir du rafistolage, a-t-il conclu. La Mayenne repasse au-dessus du seuil d'alerte. C'était le seul département de la région qui n'était pas encore en rouge, mais la Mayenne compte désormais 54,6 cas pour 100 000 habitants. Le port du masque reste obligatoire en extérieur dans les lieux de forte affluence, au moins jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez donner votre sang cet après-midi à Laval. La collecte mensuelle est prévue au quartier Ferrié de 15h à 19h cet après-midi et vous pouvez prendre rendez-vous à l'avance si vous le souhaitez sur le site monrendezvousdondesang.efs.santé.fr. Le centre de sauvegarde de la faune sauvage fermé à Château-Gontier. Et ce, jusqu'à vendredi, le centre Valentine et Jacques Perrin, voisin du refuge de l'Arche, est exceptionnellement fermé au public. Si vous trouvez un animal en détresse, vous pouvez consulter l'annuaire des centres de soins sur réseau-soins-faune-sauvage.com. À Laval, le derby de Coupe de France se jouera le 27 novembre, on parle football. Le Stade Lavallois affrontera Le Mans lors du 8e tour de Coupe de France. Il restait une incertitude au niveau de la date et ce sera finalement donc le samedi 27 novembre à 14h au Stade Francis Lebasser. Eux veulent simplement vivre de leur travail. Les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme avec les syndicats FDSEA 53 et les jeunes agriculteurs de la Mayenne. Confrontés à des prix bas, notamment pour l'achat du lait et de la viande, ils doivent en plus, depuis quelques mois, subir la hausse du prix des matières premières, électricité, gaz, engrais ou aliments pour les animaux, sans possibilité pour le moment de les répercuter, ce qui devrait changer avec la loi Egalim 2 qui entre en vigueur dès le 1er janvier pour la viande bovine. Yannick Vallée est éleveur de bovins à Cossé-le-Vivien et président de la section bovine FDSEA 53.
C'est un super outil, enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on a besoin de contractualisation, mais de contractualisation avec des prix rémunérateurs. On ne veut pas, on refuse des contrats de volume, parce qu'effectivement, des contrats de volume, ça existe. Mais dans cette contractualisation, loi Egalim 2, et c'est la loi Egalim 2 qui le dit, on doit inclure les coûts de production dans ces contrats. Tout éleveur producteur de viande vendra à hauteur de ses coûts de production, c'est-à-dire qu'il rémunère quand même son travail, il rémunère son capital, il peut vivre de son métier. Les matières premières sont en train de s'envoler, on n'a plus les moyens de rogner. Donc les éleveurs sont rendus au stade où ils décapitalisent pour arriver à maintenir leur trésorerie à flot. Un éleveur qui, je vais dire, allez, avait 50 bovins, ben, il va descendre à 35 en se disant « voilà, j'ai une partie des animaux qui s'en va parce que j'ai plus de trésorerie et ça va me permettre de subvenir à mes factures » parce que la démotivation, elle est là aussi. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'est en jeu quand même la souveraineté alimentaire. Quand je pense à la crise sanitaire, la problématique des masques où on dépendait d'autres pays, ce serait quand même dommage que demain, l'alimentation, on dépende d'autres pays et qu'à la moindre crise sanitaire ou au moindre aléa climatique, on en est arrivé à ne pas manger à notre faim. Il faut aussi arrêter de faire croire aux consommateurs que les denrées alimentaires, ça coûte rien. Ça fait trop longtemps qu'on communique sur toujours moins cher. Je crois que le budget alimentaire, c'est 13% du budget d'un ménage. Est-ce que le consommateur, pour manger mieux et sûr, n'est pas prêt à mettre 1 ou 2% de plus de son budget? Peut-être qu'il y a aussi à gagner sur du gaspillage alimentaire et sur des autres façons de travailler. Il y a probablement d'autres leviers pour que ça ne coûte pas beaucoup plus cher aux consommateurs. Aujourd'hui, on ne peut plus installer des jeunes et j'avais peut-être pas ce discours il y a 20 ans, mais un jeune qui s'installe, il regarde. S'il gagne sa vie, il y va. S'il ne gagne pas sa vie, il a raison. On s'inscrit dans l'ensemble de la société. Quand on s'installe dans l'agriculteur, on a le droit de savoir ce qu'on va gagner et combien on va gagner.
Ce qui jouera forcément pour les années à venir. Selon les syndicats, deux agriculteurs partent à la retraite contre seulement une installation. On va parler du festival des 37 à Cran, la troisième édition qui commence d'ici quelques jours, juste après avoir écouté The Fratellis avec Six Days in June. C'était The Fratellis, Six Days in June, que vous venez d'entendre dans l'agité du local sur l'autre radio. Et comme promis, avant que cette pause musicale, on va parler du festival des 37 à Cran. C'est la troisième édition. Et pour en parler, je suis bien entourée. Et oui, cinq personnes avec moi en studio. On va faire un petit tour de table, tout simplement. Je vais vous laisser chacun d'entre vous vous présenter avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc justement, pour présenter ce festival, la troisième édition. Bonjour.
Bonjour, Edwige, animatrice de l'espace de découverte et d'initiative, les ateliers d'échange sur le Pays de Cran.
Très bien.
Bonjour, Patricia, je suis participante depuis 5 ans dans le festival des 37.
Bonjour, moi c'est Béatrice, je suis habitante de Cran et j'ai découvert les ateliers d'échange il y a déjà à peu près 7 ans. Et je participe donc au festival des 37 depuis ces 3e édition.
Donc depuis le début finalement. Un autre participant.
Oui, Raphaël, Je participe aux ateliers depuis le mois de mai, mon arrivée dans le pays de Cran. Et je remercie les ateliers de meubler ma solitude.
On va en parler justement de qui participe à ces ateliers et comment c'est organisé. Avec vous, son principal organisateur, je vous laisse vous présenter.
Oui, Loïc, responsable du festival des 37 depuis le début.
Bien, merci en tout cas d'être avec nous aussi nombreux pour présenter ce festival dans toutes ses composantes. On va peut-être déjà avant présenter ce festival, comment est-ce qu'il est né il y a 7 ans en 2014, qui en a été à l'impulsion, qu'est-ce qui a été le déclic, Loïc?
En réalité, ça s'est passé très simplement puisque notre présence sur le territoire et notamment aux ateliers d'échange, c'est tout d'abord recueillir la parole des participants de ces ateliers. Et donc on s'est réunis en 2013, exactement le 16 mai 2013, avec une petite trentaine de personnes. Et c'était une date inoubliable puisque c'était l'ouverture du festival de Cannes cette année-là. Et une personne a dit, mais pourquoi nous, on n'aurait pas notre festival? Et pourquoi on ne pourrait pas non plus ne pas avoir l'occasion de monter sur le tapis rouge, de fouler le tapis rouge si célèbre? Et je suis parti de ces paroles pour dire, mais évidemment que tout le monde a droit un jour à son quart d'heure de gloire, comme disait Andy Warhol. Et ça s'est démarré comme ça, de manière très simple. On a monté un dossier avec pour projet de faire des courts-métrages écrits, joués, réalisés par les habitants, encadrés, accompagnés, on va dire, par des professionnels du cinéma.
Donc c'est vraiment le but en tout cas de mettre les habitants, de mobiliser beaucoup de monde. Il y a beaucoup de partenaires, on va peut-être pas tous les citer, mais en tout cas il y a beaucoup de partenaires et de mobiliser les habitants jusqu'à vraiment, on va dire là. Finalement le festival c'est un peu le point final de tout ce travail qui est fait deux ans avant.
C'est exactement ça, c'est faire ensemble pour vivre ensemble, c'est un message extrêmement simple qui nous est seréné quotidiennement par les différentes institutions politiques, etc. Mais le vivre ensemble, c'est quoi si ce n'est faire de l'expression théâtrale ou cinématographique, c'est faire, créer et montrer aussi de quoi on est capable d'un point de vue créatif et aussi quelles sont nos capacités d'expression. Donc c'est tout simple, hein, c'est des idées très simples qu'on met en action sur le terrain avec les gens, donc c'est pour et avec.
Donc ça marche vraiment comme ça. Je vais peut-être me tourner vers celle qui participe depuis quasiment les tout débuts du festival. Alors vous, Béatrice ou Patricia, je ne sais pas qui veut commencer. Comment est-ce que vous avez rejoint cette grande aventure? Alors, surtout pas tout en même temps. Patricia, allez-y. Oui.
Eh bien, je connaissais les ateliers d'échange parce que je travaillais à l'antenne solidarité de Cran pendant ma vie active. Et donc, j'ai toujours été plus ou moins proche de ces ateliers. Et le côté cinéma-théâtre, enfin théâtre, au départ, m'a beaucoup plu. Voilà, c'était plutôt cet atelier-là que je privilégiais.
D'accord, donc un atelier théâtre dans lequel vous vous êtes impliquée assez tôt, on l'a dit, encadré aussi par des professionnels. Vous, Béatrice, comment est-ce que vous en êtes arrivée à vous engager dans cette aventure depuis le début?
Oui, je vous en prie, allez-y. Moi, c'est tout le contraire, puisque je ne connaissais pas Cran du tout. Je suis arrivée donc dans la ville de Cran en 2013, et puis j'étais très heureuse de rencontrer qu'il y avait un atelier où on pouvait donc faire connaissance avec du monde et partager aussi bien ce que l'on est et de recevoir surtout. Donc voilà, c'était vraiment, ça n'a rien à voir avec Isabelle. Ce genre de choses, en plus, m'a beaucoup touchée dans le sens où je ne l'avais pas vue auparavant. Voilà, je suis quelqu'un qui a bougé et je n'avais pas encore vu ce genre d'atelier où
qu'est-ce
on pouvait échanger
c'est-à-dire
qu'on échange ce que nous sommes, ce que nous avons, nous l'apportons et ce que nous avons à apprendre, on le prend, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange réel, quoi. C'est un échange entre ce que nous sommes. Comme dit Loïc, le cinéma permet aussi d'apporter quelque chose que nous sommes nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la matière. C'est notre propre matière, le cinéma et le théâtre. Et ça, c'est pas quelque chose de... Enfin, voilà, c'est pas si simple que ça, mais enfin, bon, merci.
Puisque donc, justement, vous faites partie aussi des professionnels qui accompagnent, puisque vous êtes dans le cinéma, c'est ça?
Je n'ai jamais été ni dans le théâtre, ni dans le cinéma.
J'avais retenu l'aspect scénario, non. Mais ce n'était pas ça, en fait.
Moi, je suis dans l'écriture. J'étais à la base dans l'écriture, scénariste. Voilà, là, ça a été un développement pour moi très enrichissant, parce que je ne savais pas du tout ce qu'était le chemin d'écrire un scénario. Donc oui, ça a été un très beau parcours là, cet hiver.
Donc c'est pour ça, on l'a vu avec chacune de vos spécialités, en tout cas, peut-être Patricia plus sur le jeu, vous plus sur le scénario. Oui. Comment est-ce que sont constitués, Edwige, peut-être, les groupes, comment est-ce qu'à la base ils se constituent? C'est-à-dire que là, on voit que les participants sont rentrés comme ça, mais comment est-ce que vous les proposez? À qui est-ce que vous les proposez au départ? Comment est-ce qu'on crée un groupe et une émulation pour ensuite partir sur un projet?
Les ateliers sont ouverts à toute personne.
Oula, petit souci, parce que je vous l'ai dit, on est nombreux en studio, donc il y a eu un petit souci de micro, c'est pas grave, on est toujours en direct. Donc comment se constituent ces groupes?
Donc tout à chacun peut y venir et y participer, il n'y a pas de règles. Voilà, donc les uns et les autres peuvent venir sur le long terme ou peuvent venir y repartir aussitôt si ça ne leur plaît pas.
D'accord.
Chacun voit ce qu'il a envie de faire dans ce type d'atelier.
Et l'idée, c'est qu'il y ait en tout cas des rendez-vous toutes les semaines, tous les mois, comment ça organise?
C'est ça, c'est une rencontre par semaine, en règle générale, sur à peu près un an et demi, deux ans.
Et ça a été porté par le CIS de Cran avec quel objectif? Alors, je sais bien que vous n'en faites pas forcément partie, mais en tout cas, avec quel objectif à la base lors de la création?
Alors, on est les ateliers d'échange sont un service du Centre intercommunal d'action sociale. Donc, les objectifs des ateliers d'échange, c'est tout d'abord la création de liens sociaux et de la mixité sociale. Et ça rejoint les objectifs aussi de l'association L'Autre Vie du Papillon, avec qui on travaille sur ce projet.
C'est un projet qui s'est fait vraiment aussi bien avec l'association d'un côté et avec les ateliers d'échange, une rencontre entre les deux qui ont abouti à ce projet-là. S'il y en a un des deux, soit Edwige, soit Louis, qui veut bien
oui,
nous raconter.
C'est parti d'une demande des ateliers d'échange qui cherchait en fait un comédien, metteur en scène, ce que j'étais à l'époque, que je suis moins aujourd'hui, mais je le reste encore dans l'âme. Et donc je suis venu présenter ce qu'était le métier de comédienne, metteur en scène. Et ensuite, il y a eu une demande d'essayer de faire du théâtre. Et c'est parti de là. C'est parti d'une expérimentation de quelques séances, et puis d'une création d'une pièce de théâtre, et puis d'une envie de faire du jeu devant la caméra, envie de connaître la technique cinématographique, et puis ensuite de revenir au théâtre. On essaie d'alterner comme ça entre théâtre et cinéma. Et chacun y trouve sa nourriture. Chacun vient chercher ce qu'il souhaite, comme disait Edwige, du lien social, de la reconnaissance, hyper importante. Lutter contre l'isolement social. Et c'est des objectifs extrêmement forts, puisque ça réunit depuis une dizaine d'années que l'on travaille ensemble. Il y a eu quand même près de 300 personnes qui ont participé de près ou de loin à ces ateliers.
Est-ce que vous retrouvez justement, comme Patricia et Béatrice, parfois les mêmes personnes, ou bien c'est aussi des nouveaux à chaque fois? Comment
le groupe se renouvelle. Ouais. Le groupe se renouvelle. Évidemment, il y a des personnes qui sont avec nous depuis 10 ans, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a un renouvellement de 70% tous les deux ans à peu près. Des gens nouveaux qui viennent essayer, qui viennent voir. L'accroche est très importante, la convivialité. La bonne humeur qui y règne est essentielle, c'est évident. Si on se fait la gueule, personne ne revient.
Ça
donc
ne
ça,
marche
c'est...
pas.
Mais non, mais c'est des équilibres extrêmement fragiles. Aussi, on travaille sur la cohésion des groupes, donc la cohésion sociale. Ça, c'est très important de prendre en compte chaque personne. Chaque personne est vraiment reconnue dans ce qu'il est. Il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Voilà.
On parlait donc, oui, de ces personnes qui ont rejoint plus récemment, en tout cas, l'aventure, c'est votre cas aussi, Raphaël, vous êtes, alors vous, ça fait pas autant d'années que vous êtes là, mais vous êtes là aussi partie prenante de ce projet autour du Festival des 37. Qu'est-ce qui vous a incité justement à vous engager et qu'est-ce que vous y trouvez?
Ben moi, ce qui m'a poussé à venir vers ce groupe, c'est que je suis arrivé tout seul dans le pays de Cran. Et que, souffrant de solitude, j'ai trouvé avec les ateliers une chaleur et une ambiance qui me réjouit. Et pour moi, le mercredi après-midi, c'est le moment fort de ma semaine, où je retrouve tout ce groupe, Edwige, Loïc, et puis tous les participants qui sont tous très, très sympathiques.
Et c'est quelque chose que vous aviez déjà fait avant, que ce soit du théâtre, du cinéma?
Jamais.
Ou un engagement associatif comme ça?
Jamais. Jamais, c'est la première fois et je suis très heureux de cette expérience.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ou même appris peut-être sur vous ou bien en termes de technique aussi, je ne sais pas?
De technique, je ne sais pas, mais enfin, quand je vois la composition du groupe, oui, ça, ça, Ça m'apprend un peu, oui, l'ouverture d'esprit, la tolérance, parce que tous les participants sont différents, mais ils sont tous intéressants et chaleureux.
C'est d'ailleurs, ça a toujours été un peu le fil rouge d'ailleurs du festival, hein, cette lutte contre les discriminations aussi et les préjugés qu'on peut chacun avoir tous, on l'entend là aussi. C'est d'ailleurs, Loïc, le sous-titre de cette troisième édition en tout cas, hein, est-ce que, non, alors pas est-ce que d'ailleurs, je vais le dire bien comme il faut, c'était mieux avant, point d'interrogation, lutte contre toutes les formes de discrimination. Là c'est vraiment ce qu'on retrouve sur votre affiche sur cette année, mais finalement ça a été toujours le fil rouge depuis le début.
Oui, c'est constant cette lutte. Alors elle passe évidemment par l'humour, on essaie de traiter avec légèreté des problèmes très graves, mais c'est vrai qu'on essaie de répondre aux appels. Par exemple, on a fait un travail avec les Charmis, avec des personnes en situation de handicap, et ils ont écrit un scénario, ils ont développé leurs pensées, leurs idées, on a été les filmer, on les a accompagnés, encadrés, et c'est vrai que c'est le cas pour d'autres films, c'est-à-dire qu'on concerne un peu tout les secteurs, tout le secteur, tous les secteurs associatifs du territoire. Et au-delà, puisque on a cette année eu une demande aussi d'un lycée à Évron qui ont voulu parler de la dysorthographie, donc j'en ai beaucoup appris parce que je ne savais pas que ça existait. Et c'est l'occasion, si vous voulez, de parler de sujets dont les gens ont envie d'évoquer. C'est ça vient d'eux, quoi. Nous, on est des passeurs de paroles, des passeurs d'images aussi. C'est une association qui s'appelle comme ça à Angers. Mais c'est vrai qu'on crée cette atmosphère propice, les conditions propices pour que les gens puissent se révéler, s'exprimer et qu'on les entende surtout. Voilà.
C'est ça le plus important. Peut-être justement jeter un coup d'œil au programme et parler de chacun un projet dans lequel vous vous êtes impliqué. Peut-être ça pourrait être l'occasion de vraiment d'illustrer ce qu'on pourra voir, l'aboutissement de tout ce travail que vous faites depuis plusieurs mois, voire même un ou deux ans pour certaines et certains. Si on regarde ce programme, alors je ne sais pas vers qui me tourner en premier. Est-ce que ce sera Patricia, Béatrice ou Raphaël qui va répondre le premier pour savoir... Voilà, choisissez peut-être un ou deux courts-métrages auxquels vous avez participé et puis le présenter un petit peu. Parce qu'on ne va pas pouvoir détailler tout le programme, hein, y en a beaucoup. il est vaste justement, mais au moins avoir un petit focus.
Mais je peux ?
Allez-y.
Donc, comme je vous ai dit hors antenne, je ne suis pas comédienne. Je déteste même cela et ils le savent d'ailleurs ici, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer. Donc, en fait, vous me voyez que figurante, de dos, de ci, de là. On me voit très peu.
Donc, on peut vous voir quand même. Pas voilà. Vous entendre, mais vous voir quand même.
Voilà. Mais je me suis impliquée dans le scénario et dans les photos tout récemment pour faire un exposé de photographie. Voilà.
D'accord. Donc, on pourra retrouver à quel moment, à quel endroit cette exposition. Je suis en train de regarder le programme en même temps.
À la salle L'Entracte à Renazé. Voilà, une exposition sur les tournages.
D'accord. Ah oui, donc on peut vous voir. Mais oui, vu qu'on ne peut pas vous voir en tant que tel beaucoup devant la caméra, voilà. au moins.
Et aussi, on te voit, Béatrice, sur la bande-annonce.
Oui, on voit, mais si on regarde les teasers, je ne parle pas.
Donc, on vous entend.
Je dois dire que c'est un exploit pour que je sois ici aujourd'hui. Et je remercie d'ailleurs Loïc Méjean.
Je ne suis pas sûre qu'on entende beaucoup, mais vous disiez en tout cas que c'est un exploit. Eh bien, on est ravis de vous entendre, sur l'autre radio et que vous puissiez témoigner. Loïc, vous voulez
ajouter ? Ce qui est intéressant, c'est que, à travers ce que dit Béatrice, c'est que chacun peut y trouver sa place en réalité. C'est que tout le monde a une place dans ses ateliers, à la fois sur l'écriture, le jeu, ou même la réalisation, la prise de son, etc. Chacun trouve un poste qui lui convient.
Et justement, si on peut parler, j'insiste un petit peu, hein, si on peut parler de vos postes à vous, que Patricia, par exemple, dans quel court-métrage ou sur quelle date est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors, je n'ai pas de poste particulier. Hein, je touche un petit peu à tout parce que tout m'intéresse. Enfin, et donc, j'ai participé à un atelier d'écriture qui a duré 2 ou 3 mois. Voilà. Et de là, on a écrit des scénarios. Donc, on était tout un groupe. Donc, j'ai écrit un scénario et je joue dedans. Voilà. Et puis,
sur lequel, du coup ?
C'est à l'ouverture.
Il n'est pas détaillé.
D'accord.
C'est à l'ouverture. Les 10 films seront présentés à l'ouverture.
D'accord. Donc, il y a 10 films et donc il n'y a pas forcément de titre. Enfin, voilà.
D'accord, mais ça, on pourra les retrouver lors de la soirée d'ouverture.
Et puis, je participe comme figurante dans un deuxième petits films. Et autrement, ben, on prépare la déco, on met les choses en place dans les salles, on fait la distribution d'affiches, on est là pour ce qu'il y a besoin.
Oui, toute cette partie-là que nous, on ne voit pas, spectateurs, mais qui est très importante aussi pour le festival. Donc dans les coulisses aussi, donc dans un film qu'on pourra voir lors de l'ouverture, mais aussi dans les coulisses. Et vous, Raphaël, alors, quelle est votre participation très concrète à ce festival? Est-ce qu'on pourra vous voir
J'ai été un peu par hasard acteur dans deux courts-métrages. Le dernier, je jouais le rôle d'un grand-père dont le petit-fils s'émerveille des premiers pas de l'homme sur la Lune et qui annonce que quand il sera grand, il inventera plein de choses, dont les supermarchés, où on pourra trouver tout ce qu'on veut sous le même toit.
Donc ça, c'est peut-être une idée qui est née dans le groupe d'écriture de Patricia, pardon.
Voilà donc le rôle que j'ai joué.
D'accord, donc on pourra vous retrouver là. Donc tous les films seront en tout cas projetés lors de l'ouverture du festival, c'est ça, Loïc?
Absolument. Et c'est peut-être très intéressant aussi de dire que Nicolas Jallot sera présent. Nicolas Jallot, qui est un grand reporter qui s'est lancé dans la création de documentaires. Il revient d'Afghanistan avec un magnifique documentaire qu'il serait très intéressant de venir voir. Et puis... il y a des projections itinérantes aussi de ces 10 courts-métrages, notamment à Cossé-le-Vivien et à Saint-Quentin-les-Anges. Donc il y a 4 dates possibles pour voir ces 10 courts-métrages.
Très bien. Est-ce qu'on peut les détailler justement? Donc l'ouverture du festival, ce sera au cinéma Le Vox à Renazé le samedi 4 décembre. Ça, c'est vraiment le temps fort, j'imagine. Mais on pourra aussi les voir alors lors de 3 autres dates que je suis en train de chercher en même temps. Si
oui,
vous les
c'est
avez
le
déjà.
Lundi. C'est le lundi, Edwige, tu peux m'aider. Le lundi 6, il y a le jeudi 9 et il y a donc à la clôture le dimanche 12 où on fait une remise de prix pour récompenser toutes ces participations. C'est vraiment très symbolique, mais voilà, c'est au Festival de Cannes, il y a des palmes, là, on distribue nos palmes, voilà.
Ça peut être quoi, par exemple, comme palme?
Oh, c'est plein, c'est sous forme de cadeaux. Il y a même une personne des ateliers d'échange qui nous a fait un petit trophée, ça, c'est joli d'ailleurs, représentatif de c'est pas le César, c'est pas l'Oscar, mais c'est un petit trophée. Et puis, on a aussi un événement un peu particulier pour les gens qui ne comprendraient pas ce qu'on fait dans ce festival et à quoi ça sert de faire ce festival. On a écrit une lecture de témoignages d'une dizaine de personnes que j'ai recueillies. Parmi 60 de témoignages, j'en ai gardé 10. Et puis, on va faire une lecture théâtralisée avec des musiciens de l'école de musique, de l'établissement d'enseignement artistique du Pays de Cran. Et... il y aura même une chorale qui va venir, le 0 à 100 de Nuillet sur Vicoin. Et puis, il y a des projections également de films qui ont été choisis par les participants, comme La Belle Époque et La Bonne Épouse, qui seront projetés aussi. Donc, c'est des films qui parlent de avant.
Est-ce oui, que c'est ce que j'allais dire, ça répond vraiment à ce qui était mieux avant, point d'interrogation.
Exactement, ça répond à notre thème. Et puis, il y avait vraiment beaucoup de possibilités aussi pour la jeunesse de venir participer à des ateliers. Alors, cette année, on a, pour cette édition, le soutien du pôle culturel du Pays de Cran, avec l'école de musique, avec la programmation théâtrale, mais aussi, puisqu'il y a une préouverture, le 3, avec un spectacle qui a lien et qui a trait avec le cinéma et le théâtre. Et puis, on a aussi la compagnie... une compagnie qui présente un spectacle Ciné Circo, ce sont des Chiliens. Donc ils viennent, ils sont présents toute la semaine, ils sont en résidence en réalité. Voilà, donc il y a vraiment de... Et Jean-Carl Feldis, qui est un animateur extraordinaire, qui fait du bruitage et du doublage, c'est assez fabuleux, il vient à chaque festival. Et c'est vraiment un instant incroyable, à tout âge on peut y participer, mais vraiment de 4-5 ans jusqu'à 110 ans, voire plus. Et c'est nous qui fabriquons les bruitages et les doublages des films, alors c'est vraiment un moment extraordinaire, voilà.
Donc beaucoup de possibilités auxquelles on peut encore participer. C'est sur inscription, comment ça fonctionne?
Il vaut mieux réserver, précipitez-vous dans la réservation. Il y a les numéros des ateliers d'échange qui vont s'afficher sur vos écrans radiophoniques.
Presque, mais, bientôt, ouais. Bientôt.
Donc on retrouve ça sur le site du CIAS, des ateliers d'échange. Si vous allez aussi sur L'Autre Vie du Papillon, Vous trouverez ces documents, la bande-annonce en ligne. Tout est possible pour tout le monde de venir entre le 3 et le 12 décembre.
Justement,
quelque chose, si on vous conseille de réserver, c'est que la salle de cinéma de Renazé ne contient que 200 places.
Donc ça va vite partir.
Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Et aussi les ateliers, enfin, il y a une jauge pour toute participation.
Donc il vaut mieux réserver. Est-ce que vous aviez peut-être un mot, une phrase, quelque chose à rajouter pour inciter les gens à venir voir vos créations ou pas ? Peut-être un dernier mot ?
ayons l'esprit curieux, ayons l'esprit d'ouverture, venez découvrir ce qui est unique dans la région Pays de Loire. Il n'y a pas d'autre festival sous cette forme. C'est vraiment du cinéma populaire, c'est des temps de rencontres, d'échanges, de partage. Et en ces temps si confinés, si dans l'entre-soi, on essaie, nous, d'exploser un peu ça, d'essayer de faire venir, d'avoir un regard sur le monde, des points de vue, et de les faire partager. C'est des points de vue de la population, points de vue des gens, voilà.
Point de vue des gens d'ici, en tout cas, soyez curieux et venez voir donc le festival des 37 et ses projections et participez aussi aux ateliers. On n'en a donné qu'une petite partie, le reste ce sera retrouvé sur le site du CIAS de Cran. Merci en tout cas à tous les cinq d'avoir été avec nous en studio pour en parler. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Non, même si ça n'a pas été peut-être facile pour tout le monde, moi j'ai beaucoup apprécié que vous soyez tous là autour de la table. Le Festival des 37 à Cran, ça commence le vendredi 3 décembre et on va reprendre ensuite notre feuilleton autour du Lab Lab à Laval. Ce sera juste après Norma et Badlands.
Laid you down on the bed. Fell
c'était Norma avec Badlands dans l'agité du local. Et comme promis juste avant cette pause musicale, on va parler évidemment, on va continuer en fait notre petit feuilleton commencé lundi à propos du Lab Lab, le premier Fab Lab de la Mayenne consacré et dédié aux personnes en situation de handicap. Les bénévoles de l'association fabriquent entre autres des aides pour les personnes en situation de handicap grâce à leur machine de fabrication en 3D. Et aujourd'hui, le président de l'association, Fabien Cacheux, nous explique concrètement le déroulé d'un projet de A à Z entre le moment où la personne en situation de handicap vient les voir avec son besoin et le moment où la pièce est réalisée.
La première étape ici, quand quelqu'un vient, une personne en situation de handicap qui vient chez nous pour un besoin en disant voilà, j'ai besoin par exemple d'ouvrir mon étagère haute et j'ai pas la possibilité parce qu'il me faudrait une poignée particulière sur le placard. La première étape quand il vient, c'est qu'il rencontre une ergothérapeute qui précise le besoin avec la personne, qui analyse le besoin et cette ergothérapeute nous sort un cahier des charges en fait et nous dit voilà quel type d'objet il a besoin pour cette pathologie, etc. Comment la personne a besoin de prendre la poignée, etc. etc. Une vision globale du besoin et de la personne. Après nous, on crée une aide technique, en fait un objet 3D. On fait un premier prototype avec les machines que je vous ai expliquées tout à l'heure. La personne l'essaie et forcément le premier prototype ne va en général pas. Donc on le remodifie. En général, il y a trois prototypes. Le troisième, en général, est le bon. Quand le prototype est bon, la personne fait un essai long, en fait, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour savoir s'il s'habitue bien, s'il n'y a pas d'autres soucis qu'un essai rapide. Et puis après, on fiabilise l'aide technique et après, voilà, il est livré. Les aides techniques, en général, ne sont pas onéreuses du tout, quoi. C'est vraiment abordable. C'est notre souhait, en fait, social, d'apporter quelque chose d'innovant, pertinent et abordable. On est très bien aidé, on est très bien financé par le département, par la ville, par différentes fondations et puis Créavenir aussi, hein, qui est un acteur local. Alors ça c'est récent, c'est un partenariat avec l'hôpital. C'est un besoin de l'hôpital aussi d'alléger le travail des ergothérapeutes en fait, hein, et puis d'apporter notre expérience et puis des possibilités que peut-être l'hôpital n'a pas. De plus en plus de particuliers en situation de handicap connaissent le lab et donc viennent nous voir. Des structures aussi. Mais oui, on travaille avec plusieurs structures culturelles qui ont besoin de nos services pour accueillir du public en situation de handicap. Déjà, en Fab Lab en orientation handicap en Mayenne, on est les seuls. Et en fait, ce qu'on souhaite, nous, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé notre volonté de faire, c'est qu'on ne fait pas la place de la personne en situation de handicap. La personne vient au sein de nos locaux et crée son besoin avec l'aide des bénévoles. Donc il est vraiment acteur de son besoin, de son futur projet d'aide technique en fait. Si la personne peut et s'il a envie, on peut le former sur la fabrication, sur la modélisation, etc. Et il peut devenir ensuite autonome et venir comme il le souhaite au sein du lab pour créer ses futures aides techniques, même sans notre aide, s'il est formé et qu'il a envie. Voilà, ça c'est notre vœu en fait. C'est l'autonomie grâce à des aides techniques en fait. Hein, que c'est beaucoup le mot qui revient en fait sur le besoin en fait. C'est le besoin d'autonomie et de tout faire seul. Et nous, on peut créer des aides techniques pour justement cette autonomie. Et en plus, il peut être autonome pour créer soi-même les aides techniques.
Demain, on poursuit notre feuilleton avec justement des bénévoles et des personnes bénéficiaires de solutions du Lab Lab qui apporteront leurs témoignages. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mercredi. À suivre à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 21h de Chaosphère avec au programme ce soir les nouveautés Heavy, Heavy Trash et 6 reprises Heavy Metal Old School. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.